T'es pas d'accord?
Non, pas tout à fait. Je pense que 2020 et 2019, la baisse de la consommation, c'est dû à la sécheresse. Et au fait des mesures prises pour ne pas laver les voitures et pas arroser les jardins. Je pense que le principal axe de réserve de l'eau est là. Moi, j'ai aussi noté qu'il y avait des choses intéressantes au niveau du budget. La capacité d'emprunt diminue. C'est-à-dire que le montant des emprunts à rembourser diminue. Donc on libère normalement de la masse financière. Je n'ai pas dit qu'il fallait le dépenser. Je dis qu'on en libère.
Alors.
Attends, je termine quand même, parce que moi, ce qui me semble aussi important, c'est ces trois années de sécheresse. Trois années de sécheresse qui peuvent devenir plus importantes dans les années à venir. Alors, je ne dis pas que ce sera forcément toutes les années, potentiellement, on perdra un peu plus d'eau, un peu plus d'eau, un peu plus d'eau. Mais on risque d'avoir une sécheresse plus sévère que les autres qui risquent d'arriver. Et à ce moment-là, on va être le bec dans l'eau, parce qu'il n'y a pas de plan prévisionnel d'urgence en matière de qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'eau. Et il va bien falloir se poser la question, comment on va faire pour livrer de l'eau sur le territoire communal aux gens quand on n'en aura plus pour boire. Puisqu'il y a eu le transfert sur les bouteilles d'eau, mais tous les gens ne pourront pas se transférer sur l'achat de bouteilles d'eau, je ne sais pas moi, d'eau de source à Leclerc. Ça c'est très important. Donc il nous faut un plan prévisionnel en cas d'urgence de que faire, comment doit-on rendre le service public dans ce cas-là au public. Est-ce qu'il faut privilégier l'hôpital? Est-ce qu'il faut privilégier la gendarmerie? Est-ce qu'il faut privilégier Pierrebourg? Qu'est-ce qu'on privilégie? Qu'est-ce qu'on dépense ou on ne dépense pas? La troisième chose, c'est que dans ce cadre-là, ce manque d'eau, il y a deux possibilités. Soit on va rechercher de l'eau ailleurs, et c'est ce qui a été cité dernièrement dans le journal, il semble que ce soit très compliqué pour aller la rechercher dans la Creuse, puisqu'il va falloir quand même quelques kilomètres de réseau. Pour la chercher dans le Torion, il va falloir d'autres kilomètres de réseau, et que de toute façon, il faudra monter des stations pour traiter l'eau qui seront prises dans ces rivières-là. De toute façon. Et c'est pas sûr que les débits permettent de réapprovisionner facilement le. Donc il y a urgence peut-être. Il n'y a peut-être pas urgence à attendre que le département prenne cette compétence pour voir comment on résout le problème. Il faudrait peut-être y réfléchir un peu plus en amont. Et troisième et dernière chose qui me semble essentielle sur ce problème de l'eau qu'on doit rendre à nos citoyens, qui est les édiles doivent l'eau à leurs citoyens. Nous devons l'eau sur notre territoire. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place quelque part Je note que quand on met des arrêtés préfectoraux, la consommation baisse. Est-ce qu'on ne peut pas transformer ces arrêtés qui sont, punitifs, puisque si vous arrosez votre voiture, vous prenez l'amende, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers de la pédagogie de façon à ce que la consommation de l'eau baisse sur l'année à guérir? Sur l'année à guérir. Récupérateur d'eau, utilisation de l'eau différente, réorientation. C'est un problème essentiel, hein. Réorientation vers des toilettes, enfin je ne dis pas vers des toilettes sèches, parce que moi je ne le ferai pas ça. À mon âge, j'en suis plus capable. Mais réorientation de l'assainissement vers on assainit de l'eau, jusqu'à quand dans quelle mesure peut-on la récupérer pour faire autre chose à la sortie de la station d'épuration traitée, plutôt que de la rebalancer dans la Creuse? Voilà, c'est des questions qui se posent et qui dans les 5 ans vont être essentielles. Est-ce qu'on va subir, si on subit une quatrième sécheresse, on va commencer sérieusement à se poser des questions en ville. Hein. Il y a aussi d'autres pistes qui sont explorées sur les puits, par exemple. Un tiers des maisons qui, à peu près, qui ont un petit jardin ont un puits dans leur jardin. On avait regardé avec Henri une fois, il y a tout un tas de réseaux de ruisseaux qui sont maintenant enterrés, qui ont disparu des cartographies de la Sorre et qui existent encore. Hein. Il y en a un qui descend, par exemple, de Granchet et qui va tomber sur le parking de DF, en suivant le mur du collège que connaît bien Sylvie. Rien que sur ce parcours-là, il y avait 7 à 8 lavoirs. Hein. Donc il y a des questions qui se posent réellement, parce qu'on ne va pas faire descendre des camions de Saint-Léger pour distribuer de l'eau aux gens de Guéret, quoi. Parce qu'on en était là il y a 2 ans. Hein, voilà, j'ai terminé.
Bon, juste pour compléter, tu disais que le taux d'endettement baissait, par contre le total des recettes en eau baisse aussi.
Forcément, au moins. Mais si le taux d'endettement baisse, est-ce qu'on ne peut pas réorienter une politique de prévention?
Et puis là aussi, le taux d'impayé est important, donc je pense que c'est aussi le signe d'une précarisation de la population sur le paiement de l'eau comme de l'assainissement. On a sûrement des indicateurs intéressants à avoir. Donc juste préciser que la commune est en train effectivement de, de commencer à mettre en place un programme de récupération d'eau déjà sur les bâtiments municipaux. Donc effectivement, il y a énormément, je pense, de mètres carrés de toiture à exploiter et d'eau à récupérer. Donc on est en train de commencer à voir sur quel bâtiment on pourrait immédiatement installer des récupérateurs d'eau et sur quel autre bâtiment il faudrait envisager des travaux. Mais ça, il faut absolument qu'on y pense parce qu'on a énormément de bâtiments municipaux qui ne sont pas dotés de récupérateurs d'eau. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce rapport?
Non, mais moi, je voudrais appuyer ce qui a été dit. Bon, moi, je ne veux pas parler de l'eau parce que je vais me fâcher. J'ai lu avec beaucoup d'attention un article qui disait qu'il faut laisser une personne qui a déclaré, qui a des responsabilités, qui a déclaré, il faut laisser les professionnels de l'eau s'occuper de l'eau. Et il se trouve que j'ai dû dire la même chose à la communauté d'agglomération du Grand Guéret il y a quelque temps. Donc, je trouve ça intelligent. Mais par contre, on sait approvisionner Guéret, hein. Et pas forcément sur la Creuse et sur la Gartempe. Il y a d'autres solutions qui sont connues sur le plan départemental d'approvisionnement. On connaît aussi le montant approximatif. Hein. Pour Guéret, on est autour de 5 millions. Mais il faudra bien trouver, à un moment donné, la solution. Tu as complètement raison. Et moi, je pense que lorsque tu évoques une forme d'éducation à l'économie, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler, tu as raison. Hein. Tu as raison, Guéret, c'est consommation moyenne de 3000 m3 par jour, quand les collèges et lycées sont ouverts, et la production des captages est à 3200-3300 quand ils sont en pleine forme, c'est-à-dire quand ils sont en pleine forme en stock, et il y a 4-5 jours d'autonomie sur Guéret dans les cuves qui sont situées en haut. Donc, effectivement, les camions-citernes étaient là à l'époque de la sécheresse. Ils étaient dans Guéret, dans les locaux de la SOR, et prêts à intervenir, aller acheter de l'eau. Mais je rappelle aussi que dans le contrat, quand on passe un contrat avec un prestataire, il a obligation de fourniture d'eau, ce qui n'est pas le cas de la collectivité. C'est immoral pour la collectivité. Mais sinon, le prestataire, il fournit l'eau. Il est obligé de fournir l'eau à la population quand il a obtenu un contrat d'affermage. Regardez bien les contrats, c'est ce qui est écrit dedans. Il y a une obligation. Alors après, la discussion qui avait eu lieu à ce moment-là, c'était de dire, eh ben voilà, on amènera l'eau par camion-citerne, etc., etc., plus le réaménagement de la station de Courtille qui a été fait à l'époque. Hein, elle a été remise en état pour qu'on puisse... Courtille, c'est 3 semaines d'autonomie à peu près. Ça offre une autonomie de 3 semaines avec de l'eau potable. Bon, on ne va pas parler du goût, on me dit que ça ne serait pas bon, moi, j'en sais rien, en tous les cas, on ne s'en est pas servi. Mais il faut faire très attention, très très attention dans ce domaine. Il existe des solutions pour Guéret, il existe des solutions d'interconnexion pour la Creuse. Oui, il faut aller très vite, vous avez raison, et là aussi, il faut être très exigeant. Mais je redis cette phrase, elle est très importante, laissons donc les professionnels de l'eau s'occuper de l'eau. Ils savent le faire très bien.
Merci, Monsieur Vernier. Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet? Merci. Donc,
J'ai oublié, pardon, c'était pour tout à l'heure, pour éclairer, parce que je me suis dit, il manque quelque chose dans ma démarche. Je reviens à notre collègue. Notre collègue a été condamné, alors donc il a été pas inéligible, mais a été condamné à 7 500 euros d'amende, et ses 3 adjoints à 4 000. C'est pour ça que je vais demander ce soutien, parce qu'il n'a pas été, on a fait pression, mais en plus, il y a eu une condamnation individuelle, et bien entendu, ce n'est pas la commune qui peut payer.
Bien, donc vous êtes invité à prendre acte de la présentation de ces rapports, ça ne donne pas lieu à un vote. Monsieur Pingot. La Guéretoise de spectacle avec une demande de conventionnement, scène conventionnée d'intérêt national auprès de la DRAC.
Oui, alors jusqu'en 2020, la saison culturelle de la ville de Guéret a été conventionnée sous différentes appellations, écriture du monde et les musiques, par l'État via la direction régionale des affaires culturelles. Plus connu sous le terme DRAC, Limousin puis Nouvelle-Aquitaine, au regard du projet artistique porté par les services de la programmation culturelle municipale appelée la Guéretoise de spectacle. Le projet artistique en cours s'articule autour de 3 points aider et accompagner les compagnies du territoire, favoriser l'accès à la culture par tous et pour tous, proposer une programmation artistique pluridisciplinaire, innovante et de premier plan. Ce projet fondé sur la création, le travail en résidence, l'accompagnement des compagnies régionales et l'accès à l'art pour tous correspond aux conditions d'attribution et au cahier des missions et des charges de l'appellation scène conventionnée d'intérêt national. Mention art et création. À ce titre, il pourrait faire l'objet d'une demande d'appellation. Pour information, l'appellation art et création est attribuée par décision du ministère chargé de la culture pour une durée de 4 ans renouvelable et donne lieu à une convention quadriennale d'objectifs entre la structure bénéficiaire, le préfet de région et là où les collectivités partenaires. Aussi, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver cette demande et d'autoriser Madame le maire à signer la convention quadriennale d'objectifs liant l'État, ministère de la culture via le préfet de région et la ville de Guéret.
Merci. Monsieur Pingon. Oui, monsieur Correa.
Juste une question. Est-ce que ça veut dire que sur l'année 2021, la guérétoise de spectacle n'était pas conventionnée? Et à ce moment-là, est-ce que ça entraînait la baisse de la subvention de la DRAC?
Non,
c'est
il y a...
pas la même. Oui, non.
Il n'y a pas eu de baisse de la subvention, et en fait c'était en pourparler, justement, en fait c'est que ça a changé entre l'écriture du monde et les musiques, on est passé sous une appellation que je viens de vous citer, art et création. Mais sinon il y a toujours le soutien de la DRAC qui ça n'a pas changé.
C'est-à-dire qu'on était en difficulté avec la DRAC qui nous contestait le label art et création et qui voulait qu'on passe sur le label art et territoire.
Oui, voilà.
Et donc, il y a eu des pourparlers pendant plus d'un an autour de ce sujet, mais la DRAC nous avait maintenu à titre dérogatoire les financements le temps que la décision soit close. Et en fait, on a eu gain de cause puisqu'on leur a démontré qu'effectivement, on devait rester sur ce label art et création qui correspondait complètement à ce que sait faire la guérétoise. Et donc là, le label scène conventionnée d'intérêt national est un label supplémentaire, en fait. Voilà. Donc,
pour faire simple, même au sein de la DRAC, ils n'étaient pas d'accord, en fait. Par rapport à notre programmation, par rapport à plein de choses, c'est...
C'est-à-dire que, oui, on était face à des incohérences. Par exemple, la DRAC contestait la qualité de nos spectacles, alors qu'on produisait des spectacles que la DRAC avait financés. Donc, on a eu 2 ou 3 réunions assez houleuses avec la DRAC, et au bout du compte, on a obtenu effectivement gain de cause. Mais bon, moi je pense qu'ils avaient besoin sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine d'avoir un département dans lequel le label art et territoire soit mis en place et qu'il n'existait nulle part et que la Creuse, avec sa physionomie rurale, pouvait être le territoire idéal, mais c'était absolument pas du tout ce qu'on souhaitait et ce qu'on savait faire sur le territoire. Donc on a eu gain de cause, mais ça a été tout à fait relativement compliqué. Voilà. Monsieur Correa.
Donc bravo d'avoir tenu tête, déjà pour commencer. Mais alors, pour bien comprendre, il rajoute un label, scène conventionnée internationale, où en fait c'est le même qu'avant, que ce sera une scène conventionnée, mais avec l'appellation art et création. C'est ça?
C'est ça.
D'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions sur ce sujet? Non? Donc, eh bien, je vous propose d'autoriser cette demande et de m'autoriser aussi à signer la convention quand ce sera le moment. Donc, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Alors, toujours la guérétoise de spectacle sur la demande de subvention.
Alors, en parallèle de la demande de conventionnement à récréation auprès de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire à solliciter au titre de l'année 2021 une subvention de fonctionnement de la guérétoise de spectacle auprès de la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 70 000 euros et une subvention de fonctionnement auprès du conseil départemental de la Creuse à hauteur de 25 000 euros. À signer tous les documents, à intervenir.
Merci. Monsieur Correa.
Oui, toujours là. les années précédentes, je crois que la région était montée à hauteur de 100 000 euros de participation sous le précédent mandat.
Alors, ce... Pardon. En fait, on attend justement la réponse du conventionnement qui devrait arriver en fin d'année, donc d'ici très peu de temps, pour demander le complément.
D'accord. C'est qu'effectivement, la subvention de la région est liée au conventionnement ou non de la Seine de la ville, c'est ça ?
Voilà.
Est-ce que la DRAC vous a déjà donné en gros ce que
oui, ça... en fait, on a. Alors, c'est difficile de le dire là, mais oui, il y a un accord de principe. En fait, c'est soumis à signature du ministère de la Culture. Et justement, en fait, ça prend un petit peu de temps pour une durée de 4 ans. Mais on a une promesse d'affiliation. Donc, voilà, on attend la fin d'année pour une confirmation.
Mais alors, pourquoi pas. Moi, je demanderais directement les 100 000 à la région, non pas 70 000, puis après revenir en demandant 30 000 supplémentaires, si on a le conventionnement ou pas. Je pense qu'il faut directement demander les 100 000.
Le problème, c'est quand même les délais. On est sûr d'avoir les 60 000 et puis donc d'avoir le complément à la signature de la convention. Si la convention prend un petit peu de temps à être signée, ça nous permet au moins déjà de pouvoir fonctionner. Donc, ils étaient prêts à nous donner 70 000 euros en avance en attendant la signature de la convention. On les a pris, hein, plutôt que d'attendre.
Si je peux me permettre, souvent, quand la région attribue 100 000, elle paye en deux fois, hein, 70% et 30%. Souvent. Donc, on pourrait demander 100 000 et qu'ils vous donnent les 70 tout de suite et conditionner les 30 000, effectivement, à la signature ou non. Mais... Est-ce que c'est pas un peu risqué de ne pas demander d'emblée les 100 000 ? Enfin, je veux dire, parce que je sais un peu comment ça se passe. Hein, donc, voilà. Et après, j'aurai une autre question. Après, j'arrêterai sur le département. La contribution du département était, il y a quelques années, hauteur de 40 ou 45 000 euros. Là, c'est qu'ils ont baissé aussi. Est-ce que c'est haut ?
Ça a baissé depuis 2019, la contribution du département. Y a-t-il d'autres questions ? Bien, donc je vous demande d'autoriser cette demande de subvention. Y a-t-il des abstentions, des oppositions, des abstentions ? Merci. Madame Tonduf, pour le marché de Noël.
Oui, donc le marché de Noël 2021, donc cela concerne les tarifs de location des chalets. Donc la ville de Guéret organise un marché de Noël du samedi 18 décembre au lundi 20 décembre 2021. Donc il se tiendra à place du marché. Les exposants seront installés dans des chalets et donc afin de procéder à la commercialisation de ces chalets, il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer la location du chalet à 30 euros par jour pour un chalet de 3 mètres par 2 et donc d'accorder la gratuité aux éventuelles associations municipales.
Merci. Y a-t-il des interventions ou des questions ? Non ? Donc, je vous propose ce tarif pour les chalets, pour le marché de Noël qui se situera donc du 18 au 20 décembre sur la place du marché, à Guéret, avec des animations tout autour. Donc, y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. Toujours le marché de Noël pour la patinoire.
Voilà, donc ce point-là concerne les tarifs des entrées à la patinoire. Donc la ville de Guéret met à disposition, à l'occasion du marché de Noël, une patinoire de 162 mètres carrés. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer favorablement sur les tarifs énoncés ci-dessous. Donc l'entrée à partir de 18 ans est proposée à 3 euros, entrée pour les moins de 18 ans à 2 euros. Les gants polaires, les casques homologués seraient gratuits et le module d'aide au patinage est proposé à 1 euro.
Avez-vous des questions ou des demandes de précision sur ces tarifs ? Bon, on a essayé de faire quelque chose qui soit très abordable.
Et est-ce qu'on peut faire un effort supplémentaire ? Moi, je propose que pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires de Guéret, ça soit gratuit. Parce que je ne sais pas, pas pour perdre une recette, mais franchement, est-ce que ça ne vaut pas le coup de perdre cette recette et puis de le faire gratuit pour les enfants de nos écoles ? ou alors qu'il y ait une entrée qui soit offerte à chaque enfant. À chaque enfant des écoles, remettre dans les écoles un certain nombre de tickets, parce que les enseignants, pour les familles qui sont nécessiteuses, enfin, vous connaissez ça aussi bien que moi, qu'on puisse avoir un petit effort sur les écoles, hein.
C'est une excellente idée, Monsieur Vernier, je pense que personne ne s'y opposera. Donc plutôt la gratuité pour les enfants guéritois de maternelle et primaire, ou
il y a deux solutions, ou la gratuité pour les enfants d'école, ou alors on remet des entrées dans les écoles.
On l'avait évoqué un peu.
Afin que les enfants, il y a des enfants qui viennent en France pour 2 euros.
Pour simplifier l'organisation, la distribution de tickets gratuits au sein des écoles, et après les écoles se distribuent. Voilà. Je pense que c'est plus simple que de proposer les gratuités, ça veut dire contrôle des adresses.
En tout cas, qu'il y a un geste en direction.
Oui, par contre, le geste est... Oui.
Ouais, on l'avait envisagé, effectivement.
Et est-ce qu'il y a le parce que c'est un gérant privé.
Oui, oui.
Bon, on avait eu contact avec lui l'année d'avant. Est-ce qu'il paye un droit de place? Comment ça se passe?
Mais non, mais c'est la patinoire nous est livrée, montée, et après nous la gérons.
Pardon?
C'est nous qui la gérons. La patinoire nous est livrée.
Elle est mise à disposition.
C'est nous qui l'exploitons.
L'outil est mis à disposition et c'est la ville qui gère.
Tout à fait. Donc les recettes seront des recettes pour la ville. Voilà. Et c'est la ville qui gère. Et donc pour faire marcher la patinoire, on va avoir notre personnel qui sera présent, plus des jeunes qu'on recrutera pour les 15 jours.
On avait eu un contact, mais c'était géré par un privé.
Non, mais c'est pas le même en fait.
Très bien. Monsieur Dubois, Madame Bonnet.
Oui, j'ai peut-être pas retenu, vous l'avez sûrement dit à un moment donné, pas aujourd'hui, mais quel est le coût de cette patinoire?
Alors, la patinoire coûte 30 000 euros. Mmh. C'est une patinoire que nous avons pour 15 jours. On avait prévu une capacité un petit peu plus petite au départ, mais ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse avoir au moins un peu plus de 40 patineurs en même temps sur la patinoire. C'est pour ça qu'on a choisi celle-ci. Elle est couverte, puisque 15 jours en mois de décembre, on risquait d'avoir des problèmes de pluie. Et puis donc, on a avec le prestataire tout un système de surveillance aussi. Donc la patinoire sera surveillée quand elle sera fermée, les soirées. Et avec la patinoire, nous sont bien sûr livrés les patins et le matériel pour les très jeunes enfants. Ce sera une patinoire qui sera éclairée, qui sera animée sur le plan musical. On a essayé, comme on avait eu des Noëls très tristes à cause de la Covid, d'essayer de faire un effort cette année pour les petits guéritois.
Et la surface aussi a été anticipée au cas où, pour qu'il y ait une distance aussi qui soit respectée.
C'est des petits détails, hein, mais j'ai vu qu'il y avait un temps limité.
Oui, on va faire des sessions de 30 minutes.
Et par expérience, mais à la fois sur Guéret et sur Limoges, pardon de prendre un exemple, une demi-heure, c'est pas long. Hein. Limoges, c'est 45 minutes. Non, mais je le dis parce que c'est des petites choses, il ne faudrait pas être amené à changer en cours de route. Ceci dit, moi je peux vous dire qu'il y avait des files d'attente, hein, donc ça va marcher cette affaire. Mais 30 minutes, le temps que les gamins... trouvent un petit peu le truc et après on leur dit allez, il faut sortir pour laisser la place. Ça se passe comme ça ailleurs, hein, donc
alors
moi je mettrais bien, je vous propose de mettre un petit quart d'heure de plus, parce qu'une demi-heure ça passe vraiment très très vite.
Alors on avait réfléchi, hein, mais c'est vrai que alors ça passe vite et en même temps c'est vrai que ça s'adresse aussi aux très jeunes enfants. On avait peur qu'ils s'épuisent et après quand ils sont épuisés c'est là où ils pourraient se faire mal aussi. Donc on avait dit une demi-heure, c'est court mais ça peut aussi être long parfois. Donc
tu connais pas leurs ressources.
Ouais.
Voilà. Enfin bon, c'est pareil, c'est une proposition. Je vous fais compte tenu de la rotation. Une demi-heure, ça va vite, ça fait arriver beaucoup de personnes, beaucoup de transferts de patins, de choses comme ça change souvent.
On était sur 45 minutes au départ et puis après on a discuté. Mais on va pas regarder le chronomètre à ce moment-là.
J'en fais pas une affaire sur le dossier. Mais 45 minutes, ça me semble mieux qu'une demi-heure.
Bon, mais on va réfléchir.
Bien, donc on vous propose ce tarif en sachant donc que des tickets seront distribués dans les écoles de Guéret pour que les enfants maternels et primaires puissent entrer gratuitement à la patinoire. Ça convient à tout le monde? Donc je soumets cette proposition au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Monsieur Contarin, la convention avec le COS.
Alors effectivement, là, il s'agit d'un renouvellement, puisque depuis des années, la ville de Guéret met à disposition un agent de catégorie C de la ville auprès du comité des œuvres sociales pour assurer le secrétariat. Et donc, la convention arrivant à échéance fin octobre 2021, il vous est proposé de la renouveler au 1er novembre pour une durée de 1 an.
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? Je ne sais pas si c'est la patinoire qui fait parler tout le monde, mais... Donc, pour cette demande de mise à disposition pour le COS avec remboursement des salaires, y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie. Monsieur Contarin, sur le service civique.
Alors là, il s'agit également d'un renouvellement, puisque la ville de Guéret, depuis 2012, a recours au dispositif des services civiques, qui a permis d'accueillir notamment des jeunes au service Anima pour participer à l'animation donc dans les quartiers. Et il est proposé à l'Assemblée de renouveler la mise en place de ce dispositif au titre de l'année 2022.
On trouve toujours des volontaires ?
Oui, on en a.
Oui, là, on en avait 3.
Y a-t-il des questions, des remarques sur ce dispositif des services civiques ? Donc, je vous propose d'autoriser la poursuite de ce dispositif service civique au sein de la collectivité pour l'année 2022. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. Monsieur Contarin, le gros dossier des 1600 heures.
Alors effectivement, la délibération qui vous est présentée constitue la deuxième étape du passage aux 1600 heures des agents de la collectivité au 1er janvier 2022. Le règlement proposé est issu d'un travail mené depuis le début de l'année 2021 et qui s'est prolongé durant les mois de septembre et octobre, suite à l'approbation de la délibération cadre temps de travail que j'avais présentée le 28 juin dernier. Conformément aux objectifs pris lors du comité technique du 2 décembre 2020, une démarche participative a été mise en œuvre depuis le début de ce dossier. Un comité de pilotage composé de directeurs fonctionnels a été instauré. Un groupe de travail a été constitué, donc groupe de travail qui associait les représentants issus du comité technique, organisation syndicale, auxquels participaient également Madame la directrice générale des services, la directrice des ressources humaines et l'équipe DRH. Donc je profite de ce temps de parole donc pour souligner la qualité des échanges que l'on a pu avoir tout au long de cette démarche. Et je tenais vraiment à remercier l'ensemble des agents pour leur contribution, et je dis bien l'ensemble, puisque des réunions régulières de service ont eu lieu, et où effectivement les agents ont pu s'exprimer. Et je crois que, c'est ce que j'expliquais à la commission mixte, je crois que la réussite d'un projet passe aussi par la matière, et la matière ce sont les hommes et les femmes qui travaillent sur le terrain. Voilà, donc merci à tous pour votre contribution. Alors je ne vais pas vous faire lecture du règlement intérieur qui fait un peu plus de 100 pages, je vais simplement rappeler les principaux points. Donc ce règlement intérieur intègre d'une part les grands principes actés lors de la délibération du 28 juin 2021 et adopté à l'unanimité des élus, donc qui fixe la durée moyenne hebdomadaire à 37 heures, donc sur 5 jours ou 4,5 jours travaillés, fixe les différents cycles de travail possibles, avec les cycles de travail fixes, les cycles de travail pluri-hebdomadaire, l'annualisation, les horaires variables, le forfait cadre. Rappel, la durée des congés qui est égale à 5 fois les obligations de service, et ces congés doivent être posés en jour ou en demi-journée. Attribut des jours de fractionnement, puisqu'effectivement, en fonction de comment on pose les jours de congés annuels, si on les pose sur certaines périodes, on peut générer un voire deux jours de fractionnement supplémentaire. Attribut des heures RTT, puisqu'effectivement, à partir du moment où on travaille au-delà de 35 heures, on va générer des heures RTT. attribue donc des jours de suggestion, puisqu'effectivement, certains personnels qui sont soumis à des conditions particulières de travail, je pense à ceux qui travaillent la nuit, à ceux qui travaillent les dimanches et jours fériés, peuvent se voir attribuer donc des jours de suggestion. Donc les jours de suggestion vont permettre de réduire l'obligation annuelle théorique de travail. Voilà. En quelque sorte, on tient compte de ces conditions particulières de travail. Ce règlement intérieur tient compte donc des propositions formulées par le groupe de travail issu donc du comité technique. En premier lieu, donc les congés annuels. La nouveauté, c'est que les congés annuels devront être planifiés au plus tard le 28 février de l'année N sur toute l'année. Alors, pour moi, ça a deux avantages. Le premier avantage, ça permet au cadre d'organiser son service et d'avoir une lisibilité tout au long de l'année sur la prise des congés des agents. Et ça permet aussi à l'agent d'avoir son prévisionnel de congés annuels sur l'année. Les jours ARTT avec un compteur dédié. Alors effectivement, ce que l'on a voulu faire, c'est de les attribuer en début d'année, mais par contre, de se fixer une échéance, donc tous les trimestres, pour vérifier les modalités d'acquisition et de consommation. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des agents qui vont poser plus d'heures RTT qu'ils n'ont généré. Voilà. Donc effectivement, il faut un suivi trimestriel. Donc la consommation des heures RTT ne pourra générer une absence donc de plus de 12 jours, puisqu'effectivement, lorsque l'on travaille sur une durée hebdomadaire de 37 heures, c'est réglementaire, on génère 12 jours de RTT. Donc les jours de fractionnement avec un compteur également dédié, et ces jours de fractionnement devront être posés en jours. Ensuite, on a repris des règles qui étaient fixées par le règlement intérieur de la collectivité pour les points qui restent inchangés, notamment pour la prise d'ESA et RTT, avec la règle du respect de 50% des effectifs au sein du service, un délai de prévenance pour les poser, une validation obligatoire du supérieur hiérarchique et donc un report possible jusqu'au 31 janvier de l'année N+1. Reprise des règles pour la gestion des heures supplémentaires, puisqu'effectivement les heures supplémentaires sont faites à la demande du responsable hiérarchique et doivent être récupérées dans les 3 mois qui suivent leur réalisation. Ce règlement intérieur intègre aussi le cycle du travail du service avec l'annualisation qui doit répondre aux besoins du fonctionnement du service. Donc un calendrier sur l'année civile devrait être établi au 1er décembre. Et bien sûr, ce calendrier pourrait être réajusté en fonction des besoins du service. Les cycles de travail pour les horaires variables. Alors la grande nouveauté, c'est l'introduction de plages horaires fixes. Voilà, de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h30. Des plages horaires variables de 7h30 à 9h, de 16h30 à 19h, avec 50% des effectifs sur les horaires d'ouverture du public. Un compteur de débit crédit écrété au-delà de 6h, pour les heures pourront être récupérées uniquement sur les plages variables. Pour les agents de l'hôtel de ville, un système de badgeage à partir de l'ordinateur. Voilà, alors c'est vrai qu'on le déploie uniquement pour les agents de l'hôtel de ville qui ont accès à un ordinateur, c'est-à-dire qu'ils vont se connecter à leur ordinateur, au logiciel Incovar qui est le logiciel temps de travail, et donc ça permet d'instaurer un pointage. On ne peut pas l'étendre à ce stade aux autres agents de la collectivité.